France Inter.
Bonsoir à tous. Les cyberattaques risquent-elles de devenir un sport olympique cet été? Les Jeux de Paris s'y préparent. Exercice grandeur nature aujourd'hui dans un stade, nous y sommes. Alors que l'Allemagne accuse un groupe de hackers russes pour une série d'attaques remontant à 2022, nous serons également à Berlin. L'actualité, c'est aussi le troisième accident mortel en 10 mois sur le chantier du train Lyon-Turin. Y a-t-il un risque clientéliste au plan logement du gouvernement? Les maires auront un droit de décision sur les nouveaux candidats au logement social. Nous serons aux États-Unis, en Géorgie, où la communauté noire se mobilise pour le camp démocrate, et pour parler de Taylor Swift, qui détrône déjà Beyoncé au classement. Et au téléphone sonne, Claire.
Eh bien, au téléphone sonne, nous allons parler de ces Français de confession ou de culture musulmane qui partent vivre à l'étranger alors qu'ils sont nés en France, qu'ils ont étudié en France, décroché des diplômes en France. Des chercheurs se sont demandé pour quelles raisons ils partaient, avant tout en raison du racisme, des discriminations, mais aussi pour vivre sereinement leur religion. C'est ce qu'ils expliquent dans ce livre enquête dont nous allons parler. Son titre, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. On attend, comme toujours, vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y a 3 ans à Tokyo, les autorités avaient recensé près de 450 millions de cyberattaques. Les experts en attendent 8 à 10 fois plus pour les Jeux de Paris et la France se prépare. Dernier gros test donc aujourd'hui en situation au stade Yves du Manoir à Colombes, au nord-ouest de Paris, qui a déjà connu les premiers Jeux de 1924. Les équipes informatiques dispatchées dans les entrailles du stade, Emmanuel Leclerc n'a rien raté.
Sur le terrain, l'équipe de France de hockey sur gazon s'entraîne et dans les gradins déserts, une jeune femme se promène avec une espèce de petite tablette raccordée à un smartphone et un mini serveur dissimulé dans un petit sac banane.
On s'assure qu'on ne peut pas recevoir de charges malveillantes non plus sur le site.
Jérémy Couture est le chef opérationnel de ce test cybersécurité grandeur nature.
On s'assure qu'on ne peut pas rebondir d'un réseau qui soit technique pour la climatisation du site au réseau qui va assurer la présentation.
Dans les couloirs, sous le vieux stade Yves du Manoir, des techniciens branche des câbles, le Wi-Fi alimente des dizaines d'ordinateurs et des téléphones portables, autant de vulnérabilités potentielles.
Là, on entraîne l'équipe justement à se dire attention, il y a un ordinateur sur lequel on a une difficulté. C'est un vrai travail d'enquêteur puisque là, il faut qu'on comprenne comment la machine a pu être infectée.
Et un ordinateur contaminé sur un stade, c'est le risque, disent les responsables cybersécurité des Jeux Olympiques de Paris, de voir le starter du 100 mètres paralysé ou encore le panneau d'affichage d'un match de hockey sur gazon donner les mauvais scores. Cela fait donc des mois que des simulations d'attaques sont organisées pour tester la résistance des 200 applications informatiques créées pour les partenaires des JO de Paris. Des hackers éthiques ont même été embauchés pour l'occasion. On ne nous a pas donné les détails, évidemment, juste rappeler qu'il y a toujours des failles en informatique, mais que désormais, le nombre de barrières, de pare-feu à franchir et d'autre part, les solutions pour détecter les virus malveillants, les solutions pour contrer les attaques seront sans précédent pour un événement comme les Jeux Olympiques.
Reportage Emmanuel Leclerc. Et quand on parle cyberattaque, la Russie et ces pirates informatiques font souvent figure de premiers suspects. Aujourd'hui, Prague et Berlin accusent Moscou d'avoir organisé plusieurs piratages. En Allemagne, il remonte à 2022, contre des politiques, contre plusieurs entreprises. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir.
Notre correspondant en direct de Berlin qui vient de convoquer le chargé d'affaires de l'ambassade russe et parle d'attaques inacceptables.
Et oui, encore une attaque contre l'Allemagne et encore la Russie à la manœuvre. Après plusieurs mois d'enquête, les autorités allemandes n'ont plus de doute. Elles estiment disposer de suffisamment d'éléments pour mettre en cause les services de renseignement russes. C'est en fait la confirmation des soupçons qui pesaient dès le départ sur Moscou. Le SPD, le Parti social-démocrate d'Olaf Scholz, a mentionné pour la première fois l'année dernière cette cyberattaque contre les messageries électroniques de plusieurs membres de son comité directeur. Les pirates ont exploité, semble-t-il, une faille de sécurité dans Microsoft Look et avec le même mode opératoire, ils ont infiltré les messageries de plusieurs entreprises des secteurs de la logistique, de l'armement, de l'aérospatial. APT28, c'est le nom du groupe mis en cause, est actif dans le monde entier depuis au moins 20 ans. Berlin classe les pirates parmi les plus dangereux au monde. Déjà en 2015, la cellule s'était attaquée au Bundestag et puis 2 ans plus tard au Parti démocrate américain pendant la campagne présidentielle. À quelques semaines des élections européennes, les autorités allemandes recommandent la plus grande vigilance et elles promettent que l'attaque ne restera pas sans suite, sans préciser la nature de la riposte envisagée.
Sébastien Baer en direct de Berlin et dans la foulée de Berlin et de Prague, Washington a condamné ces cyberattaques, accuse aussi la Russie qui, elle, dément fermement.
Une enquête ouverte en Savoie après la mort d'un ingénieur sur le chantier du Lyon-Turin.
Dans le tunnel de construction long de 57,5 km, l'élément clé de la future ligne ferroviaire entre le sud-est de la France et le nord de l'Italie, ça s'est passé hier. C'était le troisième accident mortel en 10 mois. Récit Annabelle Galotti.
L'accident a eu lieu sous terre, tout au fond de la galerie de percement du tunnel de base, à 500 mètres de l'entrée. La victime a été percutée par un engin de chantier qui reculait, un fourgon plateau précisément. Selon nos informations, les spots de lumière fonctionnaient dans la galerie au moment de l'accident, ainsi que les feux de recul du camion et les signaux sonores. L'enquête devra déterminer s'il y a eu un manquement par rapport aux mesures de sécurité dans cette phase sensible des travaux. L'ingénieur de 64 ans travaillait depuis 10 ans sur ce chantier. Il connaissait mieux que personne les règles à respecter, confie un représentant syndical qu'il avait vu quelques minutes avant l'accident, puisque jeudi, dans la journée, une délégation de syndicats de cheminots visitait justement le chantier. Les syndicats sous le choc, comme tous ici, mais les syndicats qui, avant même le drame, déploraient déjà les deux accidents mortels sur ce chantier du Lyon-Turin en novembre et en juillet dernier.
Annabelle Galotti, France Bleu, Pays de Savoie. La ligne est censée être mise en service en 2032, en région parisienne, sur le RER C, une voiture est tombée sur un train. Le trafic est encore très perturbé ce soir. En revanche, l'autoroute A6B dans le sud de Paris est rouverte dans les deux sens entre Porte d'Italie et La Île-et-Rose. Elle avait été fermée plusieurs heures à cause d'un incendie. Prudence, c'est rouge en Île-de-France dans le sens des départs. Orange sur toute la France. Comment faciliter la construction, ralentir la hausse des loyers, faire baisser la tension sur le marché? Le projet de loi Logement vient donc d'être présenté en Conseil des ministres, très critiqué par les défenseurs du logement social qui y voient un détricotage de la loi SRU, notamment parce que les villes pourront intégrer du logement intermédiaire dans les 20 à 25% de logements sociaux imposés par la loi. Et ce qu'on retient aussi, bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir à tous.
C'est la place du maire qui aura plus de pouvoir désormais.
Oui, c'est un axe important de ce texte qui mise, pour relancer la construction, sur les élus locaux effectivement, avec non pas des incitations financières qui leur seraient promises, pas d'argent sur la table, mais la perspective de peser à nouveau, notamment dans l'attribution des logements sociaux. Ils auront la main, si le texte passe en l'état, sur les logements HLM fraîchement construits, pourront classer par ordre de préférence les candidats, opposer leur veto à une candidature, ce qui ne va pas sans poser la question d'un risque de clientélisme ou même discriminatoire, mais la mesure est plutôt bien accueillie du côté des maires. Avec ce texte, ils devraient aussi pouvoir décider des logements sociaux concernés par la vente HLM, la possibilité pour les ménages d'acheter leur logement social, là où le préfet avait jusqu'ici la main. Ils pourront, s'ils le souhaitent, introduire donc une part de logement intermédiaire, vous l'avez dit, dans les objectifs de construction pour atteindre les quotas HLM fixés par la loi SRU Mesure, vivement critiqués cette fois par l'Association des maires de France notamment. Enfin, leur droit de préemption sera facilité lorsque les prix des terrains s'envolent sur leur commune ou pour encourager la division de parcelles dans l'objectif de densifier les zones pavillonnaires sans artificialiser en dehors des villes.
Éclairage signé Claire Chaudière. Le texte prévoit aussi de durcir les règles pour les locataires dont les revenus dépassent les plafonds autorisés en HLM. Ils auraient à payer un surloyer dès le premier euro de dépassement ou même à le quitter si leurs revenus dépassent de 30% le plafond. C'est une source d'inquiétude pour les locataires rencontrés par Maya Baldour-Offredon à Marseille.
Tout est calme à la cité Jardin La Blancarde dans le 12e arrondissement. La plupart des habitants sont au travail. Ils gagnent un salaire modeste, mais un revenu quand même. Alors forcément, ce projet de loi...
Ça m'inquiète. Après, moi, je fais des heures supplémentaires pour essayer d'arrondir les fins de mois, etc. Donc je vais arrêter de faire des heures supplémentaires et je vais être à découvert. Et puis quand je ne pourrai pas payer mon loyer, je ne paierai plus mon loyer.
Nous travaillons, nous payons nos loyers. Et si malheureusement, dans un couple, il y a un euro qui va dépasser, on va dire, on va payer un surloyer.
Moi, je sais qu'avec ce que j'ai, on ne me prend pas dans le privé. Alors, comment on fait ?
On construit plus de logements sociaux. Ça, c'est la réponse du bailleur, Habitat Marseille-Provence. Et surtout, nous dit le président Patrick Papalardo, on conserve la mixité dans les HLM. 8% seulement de ces locataires se situent au-dessus du plafond.
On ne peut construire, entretenir, réhabiliter que par les revenus locatifs. Si on a une population à risque, on risque d'avoir de gros contentieux et ça peut créer un problème économique.
La région compte 15 000 demandeurs en plus chaque année. pour seulement 6500 logements sociaux neufs.
Reportage Maya Baldourou, Fredon à Marseille. Le gouvernement qui promet de dévoiler les contours précis du nouveau plan Ecophyto lundi pour réduire les pesticides. Il avait été mis en sommeil face à la colère des agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture en a déjà donné la philosophie aujourd'hui. Une marche moins haute pour réduire les pesticides de moitié. Il mise d'abord sur la recherche de solutions alternatives avec une enveloppe de 250 millions d'euros par an. Et pour rendre les métiers agricoles plus attractifs, les députés ont voté aujourd'hui la création d'un nouveau diplôme, Bac plus 3, pour former aux métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
19h10 sur France Inter, direction le Niger pour une cohabitation inattendue.
Qui illustre le virage du pouvoir nigérien. Après avoir demandé aux forces françaises de quitter le territoire, la junte fait de même avec les militaires américains. Deux semaines qu'ils préparent leurs bagages et ils vont devoir cohabiter avec les nouveaux alliés des Nigériens, Olivier Poujade, les soldats russes.
Une cohabitation au sens propre du terme, hein, puisque les soldats russes viennent de s'installer dans l'un des hangars de la base 101, près de l'aéroport international de Niamey, base occupée depuis fin décembre par les Américains pour préparer leur départ. Le symbole est assez humiliant pour les États-Unis, chassés du Niger, obligés de faire une place aux nouveaux arrivants en provenance de Russie. Mais au-delà de ça, le risque d'incident est minime. En tout cas, le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, ne semblait pas s'en inquiéter hier lorsqu'il a confirmé l'information.
Les Russes se trouvent dans un bâtiment séparé. Ils n'ont pas accès aux troupes américaines ni à nos équipements. Nous allons continuer à surveiller de près cette situation, mais pour l'instant, je ne vois pas de risque majeur dans la protection de nos troupes.
Le calendrier de sortie des forces américaines du Niger n'est pas encore totalement bouclé. Les États-Unis doivent rapatrier autour de 1000 soldats, beaucoup de matériel bien sûr, mais l'armée américaine laissera surtout derrière elle une importante base de drones, une infrastructure récente qui a coûté près de 100 millions d'euros et dont on ne sait pas si les Américains l'abandonneront au profit des Russes ou s'ils la feront partir en fumée avant leur départ du Niger.
Olivier Poujade. Tandis qu'aux États-Unis, alors qu'une deuxième semaine de débat se termine au procès de Donald Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden est sur le terrain à plein régime. La vice-présidente était en Géorgie cette semaine pour promettre emploi et investissement à la communauté noire, particulièrement celle qui a fait la différence en 2020 dans cet État conservateur. Elle se mobilise déjà, comme dans la première église baptiste de Savannah où Julie Pietri s'est rendue avec Hélène Langlois.
Le révérend Sermon N. Tillman a pris l'habitude d'appeler au vote. Là, c'est pour des élections locales.
Le vote anticipé commence demain. N'oubliez pas de voter.
Je ferai pareil à l'approche de la présidentielle, dit ce pasteur qui, sur son site internet, a mis des photos de lui aux côtés de Joe Biden ou Barack Obama.
On voit beaucoup d'apathie chez les jeunes électeurs en particulier, ceux qui n'ont pas vécu la lutte pour les droits civiques. Et puis, il y a tous ceux qui ont voté pour Obama ou même pour Biden et qui n'ont pas été soulagés. Ils n'ont pas vu arriver plus d'argent ou de meilleurs emplois.
C'est le cas de Karim, 24 ans.
Les Noirs américains votent démocrate parce que c'est ce qu'on leur dit de faire. J'achète pas, moi, je soutiens Trump.
Donald Trump a progressé entre 2016 et 2020 auprès de l'électorat noir américain. Est-ce que cela va continuer ? Andra Gillespie est chercheuse en sciences politiques à Atlanta.
Je ne m'attends pas à ce qu'on dise « Oh mon Dieu, Trump a récupéré un quart du vote noir ». La vraie question, c'est combien d'électeurs noirs vont participer à cette élection. C'est ce qui peut faire la différence entre une victoire et une défaite dans la bataille pour l'État.
En Géorgie, chaque bulletin va compter pour cette présidentielle. En 2020, les démocrates avaient gagné avec moins de 12 000 voix d'avance.
Au reportage de notre envoyée spéciale Julie Pietri, c'est l'annonce du soir. Le président turc dit avoir suspendu tout commerce avec Israël. Recep Tayyip Erdogan y voit un moyen de pression pour contraindre l'État hébreu au cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Pour le moment, les médiateurs attendent la réponse du Hamas, le chef de la diplomatie américaine jugeant la proposition sur la table extrêmement généreuse. Et en France, les forces de l'ordre ont évacué les manifestants de Sciences Po à Paris ou encore à Lyon, rassemblés pour défendre la cause palestinienne. De petits groupes toujours, message très ferme de Matignon. Les règles, on ne les défie pas, on les respecte, fait savoir l'entourage du Premier ministre.
Le printemps manque encore de sel à Guérande.
Trop de pluie ces dernières semaines pour les producteurs, les paludiers qui commence la récolte tout en douceur. Le reportage est signé Lucie Amadieu.
Avec ses bottes en caoutchouc et son râteau, Charlotte Lefeuvre, productrice de sel, nettoie ses bassins.
On va déjà se débarrasser des algues. Une fois que ce sera égoutté, on va les jeter avec une fourche classique sur les talus qu'on a autour de vous.
Une tâche qu'elle aurait dû déjà avoir terminée.
Bah, normalement, on le fait de fin janvier, début février et ça s'étale jusqu'au 15 avril.
2 semaines de retard, mais ce n'est pas la seule conséquence de ces précipitations.
Le fait d'avoir eu aussi beaucoup de pluie au printemps, ça veut aussi dire que l'eau qui est en mer et qu'on va capter dans nos réserves va être de moins bonne qualité en termes de salinité. On va avoir ce qu'on appelle, nous, du doucin. Bah, c'est de l'eau un peu douce, quoi.
De l'eau moins salée, mais encore faut-il en avoir, puisque les étiers, ces canaux qui alimentent les bassins, sont fermés. Ils sont encore endommagés par les tempêtes de cet hiver, explique le paludier David Le Fur.
Tant que des brèches de talus qui se sont effondrées pendant la tempête ne sont pas réparées, on ne peut pas ouvrir les étiers. Et si on n'a pas d'eau, on ne peut pas faire de sel.
Il espère que la situation va rapidement s'améliorer pour peut-être commencer à faire du sel dans 1 mois et demi. Ce retard dans le début de la production ne veut pas dire saison ratée, puisque tout dépend de la météo de cet été.
Reportage France Bleu, Loire-Océan. Les fortes pluies qui ont cette autre conséquence, la pêche à pied des moules est interdite à Ouistreham dans le Calvados. Les eaux usées se sont mélangées avec l'eau de pluie dans l'Orne et dans le Finistère. Ne ramassez pas les coquillages sur l'estran de la baie de Douarnenez en raison de la présence de toxines. Il est question de notre santé aussi avec cette date, le 16 mai prochain. L'assurance maladie et les médecins libéraux renouent finalement avec les négociations tarifaires pour 48 heures. Des discussions qui avaient été suspendues début avril, faute de propositions jugées suffisantes par les syndicats. Et c'est l'heure de parler musique à 19h16 avec vous. Bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
Vous êtes notre spécialiste musique à la rédaction de France Inter. Et on vous a quitté la dernière fois sur les records de l'album country de Beyoncé. La voici détrônée par Taylor Swift. Et de quelle manière, Mathieu ?
Oui, c'est presque irréel en réalité. Lorsque l'on va sur le site de Billboard, le classement américain, eh bien on ne voit que l'image de Taylor Swift qui apparaît, la chanteuse, qui se classe donc de la première à la 14e place. C'est ahurissant. Il y a une petite pause de 5 artistes, dont le phénomène TikTok Benson Boone et Drake. Et ensuite, on retrouve Taylor Swift toujours de la 20e à la 26e place. C'est du jamais vu en une semaine. Et le titre qui se classe numéro 1, c'est ce morceau avec Post Malone. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. Fortnite, c'est le nom de ce morceau Taylor Swift avec Post Malone. Taylor Swift omniprésente dans le top 100 des singles américains, Mathieu. Oui, Taylor Swift qui fait descendre tous les autres artistes du top américain, à l'exception d'un titre de Chabouzé que l'on retrouve sur l'album de Beyoncé à la 27e place, un titre de Nicki Minaj à la 53e et à la 96e place, ce groupe de punk rap originaire de Louisiane, les Suicide Boys, avec ce titre Us versus Them.
Les Suicide Boys qui dégringolent à cause de la suprématie de Taylor Swift. Merci beaucoup Mathieu Culeron. Et à la semaine prochaine, deux images encore de deux pays qui s'attaquent au surtourisme. Le Japon d'abord, qui a déjà fermé certaines ruelles dans le quartier des Geisha à Kyoto pour les protéger des touristes indélicats. Une grande palissade va être dressée devant une supérette près du mont Fuji, un point de vue particulièrement recherché par les photographes qui en viennent à perturber la circulation. Et puis au Népal, c'est la Cour suprême qui réclame désormais une limite dans le nombre de permis délivrés pour gravir l'Everest. Plus de 900 personnes ont fait l'ascension l'année dernière, l'ascension du toit du monde à plus de 8000 mètres d'altitude.
Ah oui, et puis à Venise, il va falloir payer pour rentrer dans la ville, hein. C'est un peu partout ce problème-là. Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Philly, on va voir quel temps il va faire.
La météo avec le Boom Hydradéfense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonsoir à Lodi Calac.
Bonsoir à tous.
C'est vraiment un temps à jouer les touristes, encore des pluies demain.
Oui, des averses qui s'espacent quand même en cours de soirée et de nouvelles pluies qui arrivent par l'Aquitaine. Alors demain, ce sera souvent encombré, parfois pluvieux. Les pluies seront plus marquées du sud de la Bretagne et du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le centre Val-de-Loire le matin. Elles progresseront jusqu'à la frontière belge l'après-midi avec un vent de sud-ouest. De petites éclaircies se dessineront tout de même sur les régions voisines de la Manche en journée. Du sud de l'Aquitaine vers la Méditerranée, l'Auvergne, les Alpes, Rhône-Alpes et l'Alsace, le ciel sera souvent bien voilé avec des éclaircies discrètes. Quelques ondées pourront déborder en matinée sur le sud-ouest et sur l'Auvergne.
Et des températures sans grand changement.
Oui, souvent 5 à 8 degrés le matin, jusqu'à 10 à 11 de l'océan vers la Méditerranée. L'après-midi, 14 à 18 degrés sur une grande partie nord-ouest, 18 à 22 tout de même sur le sud et le flanc est. Dimanche, encore des pluies ou des averses, parfois orageuses du sud-ouest jusqu'aux régions de l'est, et puis des températures plus ou moins de saison.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.